Bien, bah écoutez, merci de votre patience. J'étais un petit peu en retard, essoufflé. J'ai tout de suite enlevé la veste, vous m'en excuserez, mais je pense que nous sommes d'ailleurs un peu entre amis, puisqu'il y a pas mal de gens que je remercie aussi d'être venus par amitié. Peut-être pas seulement par intérêt pour Osiris, mais aussi par amitié. Alors, je voudrais présenter cet ouvrage sous différents aspects, justifiés. D'écrire un livre sur un personnage inconnu. Pourquoi un personnage inconnu? Alors, peut-être pas totalement inconnu à Bordeaux. Il va falloir relativiser, peut-être aussi prendre une double perspective, c'est-à-dire un héros national, à mon avis, et puis un héros bordelais. Et puis, j'aimerais commencer également par quelques mots concernant la maison d'édition dans laquelle a paru ce livre. Tout simplement parce que c'est une nouvelle maison d'édition qui s'intitule « Esthétique du divers ». C'est tout un programme, évidemment, d'un éditeur qui veut sortir justement des sujets un petit peu originaux, mais tout particulièrement touchant au domaine de l'histoire de l'art. C'est un peu logique, je dirais, puisque je suis impliqué aussi dans cette affaire, et de l'anthropologie. Avec certainement des champs privilégiés que nous allons, je l'espère, pouvoir développer. Mais j'ai le plaisir, donc, non seulement de présenter ce livre-là aujourd'hui, mais d'annoncer que, justement, le deuxième est déjà paru, qui s'intitule « Les débuts de l'art ». C'est un livre d'anthropologie de la fin du XIXe siècle, un livre absolument extraordinaire. Imaginez un sociologue, anthropologue allemand qui arrive à écrire des choses comme toutes les civilisations, toutes les formes d'art ont un droit égal à la science. Qui s'interroge aussi, par exemple, il écrit dans ce livre, mais pourquoi on n'a pas demandé aux indigènes ce que veulent dire leurs dessins? Vous imaginez, en 1894. Donc ce sont des penseurs comme cela, originaux, que nous avons envie de faire sortir de l'ombre, comme, d'une certaine manière aussi, des personnages qui ont pu jouer un rôle assez important dans le domaine de la culture en France, et qui sont malheureusement un peu oubliés. Alors, Osiris, je vous raconterai un peu son histoire, évidemment, mais je voulais commencer peut-être par une sorte de justification du fait d'oser proposer un livre sur un inconnu ou quelqu'un qui est très peu connu. Pourquoi est-il oublié? Et pourquoi, d'une certaine manière, j'ai entrepris ce travail et produit ce livre après de très nombreuses années, pour des raisons diverses et variées. C'est un livre sur lequel j'ai commencé à travailler il y a au moins 15 ans. Premièrement aussi parce qu'il n'y a pas d'archives Osiris. Et écrire plus ou moins une biographie, car ça ressemble quand même fort à une biographie sur quelqu'un dont vous n'avez pas les archives, la correspondance, tous les éléments personnels, pourrait sembler presque une gageure. Mais il m'a semblé que le personnage méritait véritablement de sortir de l'ombre pour de multiples raisons que je vais me permettre de développer, évidemment, au cours de cette petite présentation. Mais j'aimerais quand même insister sur un aspect du fait que, dans le monde de l'édition, et même dans le monde de la recherche, il est d'abord habituel de traiter les sujets que tout le monde connaît. C'est tellement plus simple pour un éditeur de faire le énième livre, la énième biographie, le énième catalogue d'exposition sur tel ou tel artiste, mais proposer un livre sur un artiste inconnu, c'est très très difficile. Il n'y a pas, je crois, suffisamment dans... Alors peut-être ça tient aussi au monde de l'édition, aux difficultés de la recherche et de l'édition, mais il n'y a guère quand même d'éditeurs très décidés à faire des découvertes, à ouvrir, je dirais, leur structure à des sujets quand même que je considère comme un peu neufs et qui touchent également à des domaines qui sont variés, par exemple. De quoi relève exactement ce livre? Il a été mis donc à la librairie Mola, que je remercie évidemment de son invitation. Il a été mis au rayon histoire. C'est normal. Mais je suis pourtant professeur d'histoire de l'art. Et n'a-t-il pas sa place dans le rayon histoire de l'art? Non. Déjà, ils ne l'ont pas mis en judaïsme. Pourquoi ? Parce que bien souvent, comme il y a juif dedans, on le met en judaïsme parce que ça va concerner les juifs. Donc, vous voyez, il y a déjà presque parfois un problème de classification des livres. Et pourquoi, donc, ça fait partie de ma justification, un historien de l'art qui vient faire le travail des historiens, c'est-à-dire de sortir une biographie d'un personnage donc tout à fait pittoresque. Si vous avez regardé un petit peu le résumé qu'a publié la librairie, vous avez dû voir quand même que c'est un personnage dont la vie est extraordinaire, au point que quelques éditeurs auxquels j'ai pu m'adresser m'avaient dit « Mais votre livre, on ne veut pas le publier parce qu'il n'est quand même pas très folichon, mais vous pourriez faire quand même un roman à partir de cela. » Il y a la matière d'un roman. Oui, mais je ne suis qu'un historien, donc je n'ai pas fait de roman. Donc j'ai persisté à vouloir faire un livre qui illustre, qui rende justice à la mémoire d'Osiris, mais qui rende également, je dirais, qui nous rende sensibles un ensemble de valeurs qui sont typiques du XIXe siècle et dont nous sommes largement les héritiers, mais que nous avons un petit peu négligés, oubliés, voire les héros, je dirais, de cette époque ont parfois été assez mal récompensés de leurs efforts, de leur mécénat, pour des raisons diverses et variées, en particulier du fait que tous ces gens-là ont vécu avant la guerre 14, donc c'est très loin. Et ce 19e siècle, que l'on tend de plus en plus à oublier comme lointain, et qui pourtant nous a légué des choses absolument fondamentales dans les villes françaises, dans la culture française, j'estime qu'Osiris est un de ces personnages qui mérite indéniablement de ressurgir de l'ombre pour eux-mêmes, mais également pour les valeurs qu'ils représentent. Les valeurs qui sont des valeurs humanistes, des valeurs de pluralité. Je vous expliquerai tout à l'heure peut-être pourquoi Osiris avait une sorte de panthéon de héros qui étaient Moïse, Jeanne d'Arc, déjà, Napoléon, Pasteur. Il y a d'autres héros, il en a d'autres. Mais avec ces quatre-là, vous avez déjà la quintessence de ce qui l'anime, de ce que sont ses idéaux. Alors ça nous apparaît, nous, presque un peu étonnant. Comment mettre dans le même sac Napoléon, Jeanne d'Arc, Moïse ? Non, ça ne pose aucun problème au XIXe siècle, et c'est ce que j'essaierai d'expliquer. Comment un homme comme lui a pu incarner, si vous voulez, le nationalisme dont nous allons parler, mais aussi une judéité, je dirais, affichée, fière. Il y a une fierté d'être juif. Alors je précise même d'être juif bordelais. Je vous expliquerai pourquoi les juifs bordelais étaient plus fiers que les autres d'être juifs par rapport aux Alsaciens, puisque à l'époque, le mépris va dans ce sens. Ce sont les juifs bordelais qui représentent l'aristocratie. Les juifs alsaciens, ce sont des Allemands, ce sont des gens qui parlent à peine le français et on les méprise souverainement. Donc Osiris, on en a la preuve, est très très fier d'être un juif bordelais. Donc comment, si vous voulez, comment est-ce possible dans ces années 1890 de sacrifier à des autels apparemment aussi différents? Mais simplement, c'est qu'il ne se contentera pas non plus, vous le verrez, d'avoir une sorte d'idéal, de défendre des idées, parce qu'il voudra les concrétiser, les mettre, dans la pierre. Et en cela, il est aussi très marqué par, je dirais, le 19e siècle. Vous savez que le 19e siècle est un siècle de commémoration. C'est là que ça a commencé, vous savez. On fait le centenaire de la Révolution. 1889, c'est pas seulement 1889, c'est déjà le centenaire de la Révolution. On est entré, vous savez, dans ce grand processus de construction de l'État-nation où la commémoration est fondamentale. Alors, des hommes vont se mêler à titre personnel, à titre privé. Parce que bien sûr, on pense toujours que la commémoration, elles sont nationales. On a même une institution pour ça, les commémorations nationales. Oui, mais au XIXe siècle, cette idée de commémoration est tellement importante que même des gens, à titre privé, vont développer des projets, vont offrir des monuments. Vous savez qu'on parle souvent au XIXe siècle, et Osiris en est un excellent exemple, de statuomanie. Vous savez, chaque ville qui fait un monument à son héros local, il y a un peintre qui est né là, alors on fait un monument, il y a un député qui a un jour quand même à prononcer une phrase importante, donc on fait un monument. Donc il y a là, je dirais, un processus qui est typique du XIXe siècle et dont Osiris va se retrouver aussi un très bon exemple. En voulant ancrer ce système de valeurs dans la pierre, dans la sculpture, dans l'architecture et dans des actes de mécénat, c'est là où, évidemment, Osiris est aussi un personnage qui intéresse l'historien d'art. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il va justement commanditer des monuments, de sculptures en particulier, mais aussi agir dans le domaine du patrimoine, qui ne s'appelle pas encore comme ça, mais un de ses plus grands titres, plus hauts titres de gloire, a été de racheter la Malmaison, château de Malmaison, donc vous savez, toute l'aura qu'a le château de Malmaison, puisque c'est, je dirais, c'est le château, bien sûr, de Bonaparte et de Joséphine. C'est pas seulement, évidemment, une relique napoléonienne, c'est quelque chose auquel, finalement, on aurait pu croire que la France était très attachée. Eh bien non, on allait vendre en morceaux le domaine de Malmaison, qui avait déjà en partie été dépecé, et on allait donc le vendre par morceaux pour le lotir, pour agrandir la ville de Rueil-Malmaison. Et c'est Osiris, alors il a raconté cet épisode dans un article, donc on a la chance un petit peu d'avoir sa version des faits, bien sûr plein de coquetterie, il est là par hasard, il a entendu parler d'eux, il va sans dire qu'on n'en croit pas un mot, puisqu'il est à l'affût des reliques napoléoniennes, il est à l'affût justement de la sauvegarde de la mémoire de Napoléon. Donc, qui est présent lors de la vente, parce que c'est une vente sur place, hein, à la criée, rachète le domaine et décide de le restaurer. Vous voyez, la démarche patrimoniale est tout à fait fondamentale. Il ne se contente pas, bon, il aurait pu vouloir jouer les princes, hein, et se dire, voilà, je vais m'installer à la Malmaison. Personne ne l'en aurait empêché. Combien de riches financiers ont acheté des châteaux, ont acheté, à cette époque-là, ils s'y sont installés. Non, lui ne s'installera jamais à la Malmaison. Il restera dans son petit hôtel particulier parisien et il va entreprendre la restauration complète à l'identique. Alors bien sûr, dans les normes de 1898-1900, hein, on n'a peut-être pas exactement les mêmes conceptions du patrimoine et de la restauration à cette époque-là, mais il va entreprendre la restauration systématique du bâtiment. Entreprendre également de retrouver dans la France entière et même à l'étranger, grâce à des descendants et à Eugénie, à l'impératrice Eugénie, de retrouver des éléments du mobilier de Malmaison pour reconstituer cet ensemble et l'offrir à l'État pour en faire un monument, un musée national. Si nous avons aujourd'hui un musée national effectivement à la Malmaison, c'est directement l'initiative. Bien sûr qu'il y avait des amoureux de Napoléon et de la Malmaison qui avaient déjà appelé au secours et ainsi de suite, mais personne n'a bougé. Vous savez que le ministère de l'époque, le ministère des Beaux-Arts, enfin, ou le secrétariat aux Beaux-Arts, a mis plusieurs années pour accepter le legs. La donation, c'est pas un legs, la donation. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on avait peur que ça fasse la propagande bonapartiste. D'ailleurs, nous sommes encore dans une phase de la Troisième République où on craint le coup d'État, on va commencer à craindre le coup d'État de l'extrême droite, on va commencer à craindre, et on craint les bonapartistes. Et c'est peut-être faire une part trop belle à Napoléon que de sauver Malmaison. Donc vous voyez les implications politiques et sombres qui ne prennent absolument pas compte, évidemment, la grandeur de l'histoire française, du patrimoine, et ainsi de suite. Donc voilà comment, parce que j'ai pris ces premiers exemples, c'est pour vous montrer comment un homme seul peut agir de manière quand même grandiose, seul. Alors seul, d'autant plus qu'il a toujours voulu agir tout seul. Ça, c'est, nous viendrons un petit peu sur la psychologie, évidemment, de mon personnage, qui est assez particulière. C'est que c'est un maniaque de l'opération solitaire. Si on lui propose, par exemple, de participer à la construction d'un monument, il dit « d'accord, mais c'est moi qui le réalise ». Donc évidemment, les trois quarts du temps, vous savez que réaliser un monument, c'est d'abord, je dirais, créer un effet de solidarité d'un groupe pour exprimer quelque chose, une commémoration des valeurs, un souvenir. Donc évidemment, les trois quarts du temps, il se fâche avec toutes les instances et tous les comités, puisqu'il voudrait le faire tout seul. Et on le traite évidemment d'égoïste, de mégalomaniaque, non sans quelques raisons. Il y a beaucoup de projets comme ça qui n'ont pas abouti. Entre autres, le projet de Waterloo. Puisque nous sommes sur le thème de Napoléon, voilà un exemple absolument flagrant. On commence à penser en France, à la fin du XIXe siècle, qu'il est honteux que la plaine de Waterloo, Borne Plaine, soit couverte de monuments de tous les pays, les Prussiens, les Hanovriens, et ainsi de suite. et qu'il n'y ait pas de monument français. Bien sûr, c'est une telle défaite qu'on n'a peut-être pas envie, mais bon, tous les braves qui sont, les grognards qui sont décédés, le dernier carré qui a tenu jusqu'à la dernière minute, qui avec lui, l'Empire a tenu, n'ont pas de monument commémoratif. Et là, il y a deux projets qui apparaissent. Le projet d'Osiris, qui achète le terrain sur lequel les derniers grognards ont tenu, qui achète une petite maison à côté, enfin bon, qui achète du terrain là-bas, près de Waterloo. Et puis, un autre projet parallèle qui émane d'un milieu du souvenir français, ce qui va devenir souvenir français, la sabretache, hein, c'est-à-dire des milieux militaires qui sont d'ailleurs, je dis ça pour tous mes collègues historiens d'art qui m'ont fait la gentillesse de venir, qui est dirigé par Édouard de Taille. Vous voyez, on est dans le milieu peinture militaire, exaltation donc du monde comment militaire et commémoration. Et donc ils ont un projet parallèle, mais Osiris est tellement connu pour avoir acheté le terrain de Waterloo, pour avoir souhaité faire ce monument, que l'on croit que l'actuel monument qui se trouve à Waterloo est d'Osiris. Dans de nombreuses biographies, on lui attribue ce monument, alors qu'en fait, il ne l'a pas réalisé. Pourquoi ? Parce que quand il a vu que les autres allaient faire aussi un monument, il s'est retiré. Donc c'est une psychologie un petit peu particulière que ce personnage, alors là, nous sommes à la fin de sa vie, hein, que ce personnage s'est forgé au cours du temps et qui prend ses racines indéniablement dans une expérience de jeunesse. Et là, nous revenons à Bordeaux, puisqu'il est né à Bordeaux. Hein, donc, je vais peut-être vous brosser quelques traits biographiques rapides du parcours d'Osiris, en vous faisant part, en même temps, des zones d'ombre, d'inconnus, qu'il reste dans la biographie d'Osiris, tout simplement parce que je vous l'ai dit, il n'y a pas d'archives, et que lui-même a été plus que discret sur toute une partie de sa vie et sur toutes ses affaires. Parce que la question que tout le monde se pose à chaque fois, c'est « Mais d'où sortit-il tellement d'argent pour acheter la malmaison, faire ceci, faire cela, léguer, faire le plus gros don qui ait jamais été fait au XIXe siècle ?» Un XIXe siècle qui va jusqu'en 14, hein, mais le plus gros don qui ait jamais été effectué, le plus gros don ponctuel qui ait jamais été effectué au XIXe siècle, l'a été par Osiris en faveur de l'Institut Pasteur. Hein, donc je reviendrai, parce que ça, c'est peut-être encore plus grandiose, peut-être comme projet, comme vision, si vous voulez, humaniste, d'usage de l'argent dans un mécénat qui n'est pas cette fois un mécénat d'art ou un mécénat de patrimoine, mais un mécénat de philanthropie, d'humanité. C'est aussi une des valeurs qui l'ont profondément animé tout au long de sa vie. Je vais vous en donner quelques preuves. Mais donc, d'où sortait-il tout cet argent ? En effet, parce que Osiris n'est pas, comme disaient certains historiens du XIXe siècle, un héritier. Il est né rue Bouault. Alors, les Bordelais qui connaissent bien l'histoire de Bordeaux savent peut-être que la rue Bouault, c'est un petit morceau de la rue Sainte-Catherine, entre actuellement la place du Général Sarail et le cours Victor Hugo, à peu près. Hein. Pourquoi est-il né rue Bouault en 1825 ? Tout simplement parce que c'est encore, même au début du XIXe siècle, le quartier juif de Bordeaux. Au XVIIIe siècle, les Juifs étaient déjà installés tout autour de la place Saint-Augustin, La place Sarail s'appelait la place des Augustins. Donc ils sont restés là, sauf évidemment les grandes familles qui avaient pu, elles, commencer à essaimer, voire à s'installer, comme vous le savez, dans des domaines à l'extérieur, Rabat, Pexoto, et ainsi de suite. Mais Osiris, qui s'appelle de son vrai nom Daniel Ifla, c'est un nom d'origine marocaine. Hein. On sait que la famille vient certainement au XVIIIe siècle du Maroc, mais peut-être précédemment d'Espagne, hein, car les racines sont vraiment ce qu'on appelle des racines séfarades. Daniel Ifla, c'est pas un nom très célèbre, c'est pas un nom très répandu d'ailleurs, eh bien, né rue Bouault, de parents très très modestes, hein, de petits employés de commerce, le grand-père a été boucher, enfin, on n'est absolument pas dans le haut du panier de la communauté juive, vous savez qu'il y a déjà des grandes familles, les Gradis et ainsi de suite. Là, on est au contraire. Rue Bouault, qui est né rue Bouault ? Les frères Pereire, Jules Mirès, ils ont été à l'école ensemble, tous ces gens-là, hein, dans la petite école. Parce que très vite, certains sont partis à Paris, comme vous le savez, et ont fait des fortunes, sont devenus des personnages absolument essentiels. Enfin, que comprendre au Second Empire sans prendre en compte l'œuvre des Pereire, hein, tout particulièrement les Pereire, et même de Mirès, qui évidemment a beaucoup moins bonne presse, parce que vous savez peut-être que Jules Mirès, qui a fait aussi des affaires absolument... Quand je dis faire des affaires, ça ne veut pas dire qu'il s'est enrichi parce que vous savez que les Pereire se sont ruinés. Et Jules Mirès a fait faillite. Mais pourquoi ? Mais parce que ce n'était pas du tout des gens qui thésaurisaient. Ils ont brassé des sommes absolument faramineuses, mais pour transformer le monde. Parce qu'un certain nombre d'entre eux sont saint-simoniens. C'est-à-dire qu'ils rêvent de modifier le monde grâce à l'argent, grâce à la banque. Hein, parce que pour eux, c'est un instrument, la banque et l'argent, pour les Pereire, hein, surtout. Et Jules Mirès, par exemple, il est quand même l'auteur, ou le promoteur, si vous voulez, des percements de Marseille, du port de la Joliette, enfin, des choses que l'État lui-même, parfois, n'arrivait même pas à faire tout seul. Et il fallait ces entrepreneurs absolument incroyables, que sont justement les Pereire, les Mirès, pour le chemin de fer, ainsi de suite. Mais beaucoup d'entre eux s'y sont ruinés parce que c'était des affaires compliquées. La manière dont on gérait les affaires aussi sous le Second Empire, enfin, ils seraient tous en prison. C'est le délit d'initié tous les jours. Hein. Tout ce qui est interdit de faire de nos jours pouvait se faire sous le Second Empire, d'où ces fortunes qui sont apparues comme ça et dans lesquelles, indéniablement, les Juifs bordelais ont joué un rôle très important parce qu'il y a eu un effet de groupe et un effet de solidarité. Tous ces petits jeunes qui ne pouvaient pas percer à Bordeaux, ni dans la communauté, ni ailleurs, parce qu'on ne les attendait pas. Et vous savez quand même que Bordeaux est déjà un peu en déclin économique. Donc les grandes familles juives se maintiennent, les radis se maintiennent. Mais il n'y a pas de place pour les petits juifs de la rue Bouault qui ont bien envie eux aussi d'être entreprenants ou de faire de la banque, et ainsi de suite. Donc ils montent tous à Paris et ils se créent à Paris un milieu juif bordelais très passionnant. Parce que ce sont des gens extraordinaires qui font la fête. Oui, ils font la fête. Ils rivalisent pour faire des fêtes. Par exemple, Millot et Mirès ont des hôtels particuliers qui sont ouverts à Giorno et on reçoit tout le monde. Et plus, dès que l'autre fait une fête, par rivalité, ils font des fêtes. Enfin, ils sont célèbres dans tout Paris. Hein. Des historiens de la banque, vous savez, sont rarement tendres pour les Juifs. Hein, parce qu'on ne va pas oublier cette dimension-là. Des historiens de la banque disent « Oh, les Juifs alsaciens, les Rothschild, tout ça, sont pas marrants du tout. Mais alors, les Juifs bordelais, ceux-là... » Même Drumont, qui a commencé chez les Pereire, ne dit pas trop de mal des Pereire. Il dit que c'était quand même des gens extraordinaires. Vous imaginez Drumont, l'auteur de La France juive, le pire pamphlet qui ait jamais été écrit en France au XIXe siècle et qui est la cause quasiment de l'antisémitisme, enfin la cause matérielle de l'antisémitisme de la fin du XIXe en France. On épargne les Juifs de Bordeaux parce que, premièrement, aussi parce qu'ils sont très français. Parce que ces gens parlent français, sont des défenseurs de la culture française. Il y a des écrivains, il y a des peintres, ils sont complètement intégrés dans la culture française. Et ils ont aussi un patriotisme, un engagement, si vous voulez, au service de la France, qui est absolument indéniable. Hein. Alors qu'on peut avoir plus de doutes, si vous voulez, sur la manière dont ont géré leurs affaires un certain nombre d'autres banquiers, ces Juifs bordelais. Ont formé donc un milieu assez solidaire à Paris, tellement solidaire que d'ailleurs, pour aborder cette dimension de la question, ils ont même constitué une communauté juive à Paris, avec leur propre synagogue. Ils ne se sont pas mélangés avec les juifs des autres régions, les juifs de Paris, les juifs d'Alsace, et ainsi de suite. Ils ont tenu à conserver leur spécificité de juifs bordelais. Et on s'approche évidemment de cette idée de fierté d'être juif bordelais et de défendre cette identité. Parce que ce qui est passionnant justement, enfin ce qui m'intéressait justement dans la biographie d'Osiris, c'était sa capacité, si vous voulez, à avoir une identité plurielle et à la défendre haut et fort tout au long de sa vie. Hein, c'est-à-dire d'être juif, d'être bordelais, d'être français, d'être, voyez, d'avoir si vous voulez, tout un ensemble d'éléments identitaires qu'il va illustrer, défendre tout au long de sa vie à travers ses fondations, ses dons et ses monuments. Alors, les Juifs de Bordeaux installés à Paris ont leur propre réseau. Ils travaillent ensemble à la Bourse, ils travaillent ensemble toute la semaine et le samedi, eh bien, ils sont à la synagogue ensemble et ils construisent des synagogues ensemble. Ce qui explique que encore actuellement à Paris, il y a une synagogue tout à fait spécifique rue Buffault, dans le 9e arrondissement, qui s'appelle toujours la synagogue du rite séfardi ou espagnol-portugais. Alors peut-être je dois ouvrir une parenthèse sur ce point, pourquoi séfardi, espagnol, portugais, tout ça, ça fait beaucoup, évidemment, de références historiques. Ben, ne l'oubliez pas, les juifs de Bordeaux sont des juifs issus de la péninsule ibérique, pour l'essentiel. Ils sont souvent arrivés comme chrétiens, comme nouveaux chrétiens, vous savez ce qu'on appelle de ce mot un peu impropre, hein, les maranes, puisque c'est une injure. Donc c'est peut-être pas quand même extraordinaire de conserver des injures comme catégorie historique, mais enfin bon. Les maranes, les nouveaux chrétiens qui viennent s'installer dans le sud-ouest, à Bayonne en particulier, vous savez qu'ils ont des apports importants, et qui s'installent aussi à Bordeaux parce qu'il y a une tolérance indéniable qui commence à se faire jour à partir de la fin du XVIe siècle, au XVIIe siècle, et alors là n'en parlons pas au XVIIIe siècle, et ces nouveaux chrétiens qui sont quand même obligés, vous savez, de faire les rites, de se marier à l'église, d'être baptisé, au fur et à mesure qu'ils sentent que la tolérance monte, que l'esprit des Lumières commence un petit peu à rayonner sur un certain nombre de personnes ou dans certaines villes, et Bordeaux est quand même une grande ville des Lumières, c'est indéniable, eh bien, ils prennent plus de liberté. Par exemple, sur les tombes, tout à coup, on voit apparaître comme date de décès 5600 quelque chose. Ce qui n'est pas tout à fait quand même une date catholique, hein. C'est-à-dire évidemment la datation hébraïque part depuis la création du monde, hein. Nous sommes en 5769. Donc vous voyez des signes comme ça de réapparition de l'identité juive qui s'était cachée, qui était restée comme ça cachée pendant longtemps et qui va pouvoir s'exprimer tout au long du XIXe siècle puisque les juifs vont devenir des citoyens à part entière. Reconnu, c'est que un des grands moments de la Révolution française, hein, c'est évidemment de, on dit, émanciper les Juifs. Mais, petite anecdote, il se trouve que les Juifs bordelais ont considéré qu'ils n'avaient pas besoin, eux, d'être émancipés. La date de l'émancipation des Juifs en France, le décret, si vous voulez, de tous les Juifs de France qui sont émancipés donc, par l'Assemblée nationale, c'est en septembre 1791. Eh bien, les Bordelais, les Bayonnais, enfin les Juifs, donc, dits séfarades, dits espagnols, portugais, enfin bon, eux disent, mais là, il y a eu une petite erreur administrative. Nous, on n'a pas besoin d'être émancipés. On est déjà français. Nous sommes régnicoles. C'est-à-dire qu'ils ont tout fait des siècles qu'ils vivent dans le royaume de France. Et par ailleurs, nous avons des lettres patentes depuis le XVIe siècle qui font que nous sommes français. Donc, cette émancipation n'a aucune valeur pour nous. Nous, le décret important, il a eu lieu en janvier 1790, lorsqu'on a reconnu aux Juifs de Bordeaux et de Bayonne leur qualité de citoyen. Eh bien, quand vous entrez dans la synagogue de la rue Buffault, vous voyez une plaque commémorative, parce que bien sûr, dès qu'Osiris fait un monument, il y a des plaques, des inscriptions, puisqu'il s'agit de délivrer un message. Et dans cette synagogue, ça a créé d'ailleurs des polémiques incroyables avec les rabbins, parce qu'ils voulaient honorer des personnages que n'aiment pas beaucoup les rabbins, Spinoza par exemple. Donc dans la synagogue de la rue Buffault à Paris, il y a des grandes plaques exigées par Osiris et qui lui ont valu un procès. Il a dû traîner au tribunal la communauté, sa communauté, pour imposer ces plaques. Avec aussi également une plaque de ce temple a été construit par Monsieur Osiris. Bon, évidemment, peut-être. Alors, il n'a pas construit tout seul, mais enfin, il a financé, c'est vrai. Et donc, sur ces plaques, que trouve-t-on ? Plusieurs séries de noms. Je reviendrai peut-être, si j'en ai le temps, sur la première série, c'est-à-dire tous les personnages juifs de l'histoire juive qu'il veut honorer. Ça commence, vous en doutez bien, à Moïse. Et ça passe jusqu'à des personnages contemporains, mais vraiment très contemporains. Par exemple, un jeune militaire mort à la guerre de 1870, qui s'appelait le commandant, enfin le colonel Franchetti, qui se retrouve sur la plaque à côté de Moïse, vous voyez, Ingabirol, enfin tous les sages de l'Antiquité, tous les grands philosophes de l'âge d'or espagnol, vous voyez, que des grands hommes. Puis tout d'un coup, vous avez le grand rabbin de Bordeaux, vous avez le grand rabbin Attias, c'est-à-dire son grand-père, vous voyez, il met les personnages qu'il a envie, et puis le commandant Franchetti. Pourquoi ? Eh bien, parce que le commandant Franchetti, jeune homme richissime, marié avec une femme magnifique, avec des enfants, en 1870, qu'est-ce qu'il fait? Les Prussiens arrivent, ils s'engagent, et il se fait tuer aux portes de Paris. La communauté juive en a fait une espèce de symbole, si vous voulez. Vous voyez qu'on est déjà soucieux, comme on le sera en 14, comme on le sera plus tard, dans la communauté juive, de dire « Attention, les Juifs meurent aussi à la guerre hein !» Vous voyez ce que je veux dire, puisque ça a été éternellement des polémiques antisémites sur ce thème, les Juifs se défilent, les Juifs se font exempter, ainsi de suite. Donc, du coup, le personnage a été mis en avant pour montrer qu'un Juif se bat, qu'un Juif fait la guerre, qu'un Juif qui est citoyen d'un pays, c'est un citoyen comme un autre. Ça vous apparaît peut-être un peu naïf presque ou un peu sans importance, mais ça touche là à des valeurs militaires qui pour les Juifs de France à cette époque-là étaient très très importantes. Pourquoi ? Eh bien parce que les Juifs font le service militaire comme tout le monde, ce sont des citoyens comme tout le monde. Vous savez que ce n'est pas le cas dans tous les pays. Un autre exemple, les Juifs sont très fiers et Osiris a même donné des dons à une société d'escrime. Il a même rêvé à un moment léguer son hôtel particulier. Il a rêvé beaucoup. Il a fait plusieurs versions de testament et il rêvait tellement de faire des choses extraordinaires qu'il n'a pas fait tout ce qu'il voulait. Mais on a des... Je dirais que la littérature essentielle que j'ai d'Osiris, ce sont des testaments. Il n'a cessé de retravailler pendant au moins 20 ans ses testaments. Donc, j'en ai au moins 4 versions. C'est absolument passionnant parce qu'il y en a un plus. Son testament mystique est écrit à Arcachon. En sa villa d'Arcachon, qui est assez extraordinaire, parce qu'il y livre évidemment tout son idéal, ses valeurs, ce qu'il a envie de faire, et tous les dons qu'il a envie de faire à travers la France, à toutes les sociétés possibles et imaginables, dont la société d'escrime. Je reviens à ce sujet. Pourquoi Osiris s'intéresse à l'escrime ? Dans son hôtel particulier, tout le dernier étage était consacré à une salle d'armes. Eh bien, parce que depuis le Second Empire, vous savez, les financiers se battent en duel très souvent avec les journalistes. Vous savez, ça fait partie des mœurs. Mais les Juifs ont, je dirais, une propension particulière à se battre en duel. Pourquoi ? Parce que c'est la meilleure attestation qu'ils sont des Français comme les autres. Vous savez qu'en Allemagne, les Juifs sont émancipés, les Juifs sont citoyens allemands. Mais vous savez que les étudiants allemands passent leur temps à se balafrer. Hein. Si vous êtes plein de balafres, vous êtes un grand étudiant. Hein. C'est un système de valeurs. Mais jamais un étudiant allemand ne se battrait en duel avec un juif. Pourtant, c'est apparemment des citoyens comme les autres. Tandis qu'en France, les juifs se battent. Au moment de l'affaire Dreyfus, les juifs se sont battus. Hein, le fameux malheureux colonel Meyer qui a été tué justement en duel pour défendre l'honneur des juifs et de la communauté juive. Donc vous voyez toutes ces valeurs. Eh bien, Osiris, lui, qui est un homme pratique, veut renforcer l'enseignement de l'escrime. Il avait même été, là c'était peut-être quand même un peu excessif, à proposer des cours d'escrime au grand séminaire rabbinique. Parce que vous savez qu'il y a un séminaire évidemment rabbinique pour former les rabbins. Alors il avait dit, bon, éventuellement quand même que ceux qui font les études rabbiniques mais qui ne veulent pas devenir rabbins. Mais enfin, c'était quand même assez extraordinaire de se dire qu'il voulait promouvoir à ce point l'escrime. Donc vous voyez, quand je le qualifie de nationaliste, vous voyez bien qu'il y a de nombreuses raisons de voir en lui quelqu'un de très très engagé dans le nationalisme français, dans la défense. Alors là, j'ai beaucoup parlé si vous voulez, de sa judéité, de sa défense en quelque sorte, des valeurs des juifs français. Hein. Mais ça va bien au-delà, c'est les valeurs françaises et c'est la France. Puisqu'une grande partie de ces fondations ou dons vont toucher justement à des héros de la nation française. J'ai cité tout à l'heure son panthéon privilégié, Moïse, Jeanne d'Arc, Napoléon, Pasteur. Pourquoi Jeanne d'Arc ? Alors là, c'est peut-être le personnage qu'on n'attendrait pas, mais qu'on n'attendrait pas vu d'aujourd'hui. Parce que premièrement, Jeanne d'Arc, au XIXe siècle, est une héroïne nationale à laquelle tout le monde adhère. Elle n'est pas encore une sainte, je vous rappelle également. Hein, parce que cela aussi, ah oui, mais les catholiques s'en emparent. Ben oui, bien sûr, ils en ont fait une sainte. Donc c'est devenu évidemment un peu plus délicat pour une France républicaine et laïque d'honorer une sainte. Hein. Donc Jeanne d'Arc, c'est une héroïne nationale à laquelle tout le monde adhère et qui, si vous voulez, et toutes les idéologies de l'époque l'exploitent hein, comme une image de résistance, d'autant plus après 1870. Puisque vous avez bien compris qu'on a besoin d'une nouvelle Jeanne d'Arc pour bouter non plus les Anglais hors de France, mais de bouter les Allemands hors d'Alsace-Lorraine. Et là, on en a, je dirais, la plus belle attestation de cet engagement nationaliste, c'est que Osiris décide, dans des circonstances très compliquées que je n'ai pas du tout le temps de vous raconter, vous connaissez tous certainement, je crois que c'est sans doute la Jeanne d'Arc la plus célèbre de France maintenant, puisqu'on la voit régulièrement lorsque le Front National vient défiler devant elle. Place des Pyramides, à Paris, il y a une Jeanne d'Arc en or, en plus, donc qui est très célèbre parce que c'est devenu un peu le lieu d'expression de l'extrême droite française. Eh bien, le sculpteur qui a fait cette Jeanne d'Arc s'appelle Frémier, grand sculpteur de sujets historiques, préhistoriques, équestres, enfin bon, un grand sculpteur. Hein. À la suite de diverses tractations, a dû enlever la statue, la remettre, enfin bon, il y a une histoire très très compliquée. Et on raconte qu'Osiris aurait profité de l'affaire pour acheter l'original de la Jeanne d'Arc et demander à Frémier, qui n'était pas très content de sa première Jeanne d'Arc, d'en faire une autre pour la mettre à Paris. Et il offre cette Jeanne d'Arc à qui ? Où ? À la ville de Nancy. Pourquoi à Nancy ? Eh bien, parce que, évidemment, depuis la perte de l'Alsace-Lorraine, Nancy est une ville frontière. Et la ville, je dirais, la dernière grande ville française avant la frontière allemande, de l'Empire allemand. Et donc, le voilà, il n'a aucune attache avec Nancy. Ça lui prend comme ça, un jour. Il veut honorer Jeanne d'Arc à Nancy. La ville de Nancy accepte d'ailleurs avec enthousiasme. Ce sont des fêtes tout à fait extraordinaires. Vous savez que Nancy va devenir une ville très nationaliste, très à droite, antisémite et ainsi de suite. Mais Osiris est quand même accueilli à bras ouverts. Et il est tellement content de l'accueil qu'on lui fait, parce que il a quand même toujours un petit peu cherché ça, que lorsqu'il offrait un monument, on lui fasse les honneurs. Tellement content qu'il leur offre dans la foulée un institut, qu'on l'en appelait à l'époque, institut sérothérapique. C'est-à-dire qu'on y soignait, ou qu'on y faisait de la recherche, déjà, sur les problèmes du sang. Vous voyez, Jeanne d'Arc, alors la ville de Nancy, alors évidemment, c'est un des lieux où justement le souvenir d'Osiris n'est pas trop oublié, parce qu'il y a, ces deux fondations importantes. Une Jeanne d'Arc qui continue à être fleurie par le préfet, parce que nous sommes en Lorraine, donc ce n'est pas l'extrême droite qui s'est emparée de Jeanne d'Arc là-bas, mais c'est la bonne Lorraine, et ainsi de suite. Donc il y a toujours une commémoration officielle. Et puis, évidemment, l'Institut sérothérapique, qui est complètement intégré maintenant dans les bâtiments de l'hôpital et de la partie hôpital universitaire de Nancy. Il a également donné, justement, à la Salpêtrière, un pavillon pour les femmes au moment des accouchements difficiles. Alors là, on touche évidemment à une dimension du personnage. C'est que, dont je vous ai dit, il est parti à Paris, il s'est intégré à ce milieu juif parisien, juif bordelais de Paris, qui fonctionne très très bien, avec des solidarités, avec des réseaux. Il travaille chez Jules Mirès. Et oui, il participe donc aux travaux de Jules Mirès. Et quand Jules Mirès s'écroule, fait faillite en 1861, des pamphlets, des textes assez venimeux circulent, comme quoi Osiris ne l'a pas soutenu. Parce qu'au bout du compte, tous ses amis tombent, et Osiris se fait tout petit, se retire dans son hôtel, laisse passer l'ouragan et ensuite réapparaît à la tête de plusieurs millions de francs et qu'il va utiliser ensuite, bien sûr, pour boursicoter, parce que ce n'est pas un banquier au sens strict, ça n'est pas un entrepreneur. Tous l'éloge que j'ai fait tout à l'heure des Pereire, de Mirès, ainsi de suite, on ne peut pas le faire pour Osiris. Il n'a rien construit en termes de chemin de fer, de... Non, il est complètement, lui, dans la commémoration et dans la fondation humanitaire. C'est un mot qui est un anachronisme, hein, entendons-nous bien. Mais ce n'est pas un entrepreneur. On l'appelait justement le boursicoteur en chambre. C'est-à-dire qu'on raconte qu'il faisait ses campagnes dans sa chambre. C'est-à-dire qu'il était chez lui et qu'il misait, il plaçait son argent et ainsi de suite. Et il est arrivé à la tête d'une fortune absolument colossale. Donc, ce personnage, à un moment dans sa jeunesse, a connu un drame qui explique aussi certains aspects de sa psychologie et qui explique également, je dirais, sa défense de certaines valeurs. Lorsqu'il est tout jeune, il habite dans un immeuble rue La Bruyère. Alors, la rue La Bruyère, c'est le quartier qu'on appelle la Nouvelle Athènes. À... Pardon ? Ah oui, parce que je tripote le micro, donc ça fait du bruit, excusez-moi, puisqu'on m'enregistre pareil en plus. Donc, excusez-moi, vous couperez le passage où je tripote le micro. Donc, je disais, il habitait rue La Bruyère, donc dans un quartier très intéressant, hein, un quartier d'artistes, d'acteurs, un grand quartier romantique. Car, né en 1825, vous comprenez que Osiris est d'une certaine manière, à sa jeunesse, ancré dans la génération romantique. Il s'est dit toujours, d'ailleurs, l'ami d'Alfred de Musset. Ça s'est traduit par le fait qu'il a offert un monument commémoratif d'Alfred de Musset à Paris, qui était près du Théâtre Français, puis comme il gênait la circulation, on l'a transporté, comme d'habitude, dans les squares, et non, là, on l'a mis au Parc Monceau. Vous savez que tous les squares et parcs deviennent des cimetières de monuments. Donc, il est ancré dans le romantisme sous une autre forme. C'est que il s'est épris de la fille, entrons un petit peu dans le roman, puisque je vous ai dit qu'il y avait la matière d'un roman, et je vous ai encore dit que des choses historiques, des choses compliquées. Il s'est épris de la fille de son propriétaire. Et sans doute que les choses ont été un peu loin, parce que on trouve, je dis bien on trouve, hein, parce que là, je reconstitue des éléments à partir d'archives qui sont très, très... Il n'y a pas d'archives personnelles, donc c'est un acte de mariage, c'est des choses comme ça. Et on trouve aux archives nationales, quand même, un dossier un peu étonnant, où Osiris, en 1861, demande l'autorisation de s'appeler Osiris. Parce qu'évidemment, je ne vous ai pas encore laissé le temps de poser des questions, mais j'imagine que vous me demandez, mais où est-ce qu'il a été chercher ce nom-là, hein, bien sûr, alors qu'on s'appelle Daniel Ifla et qu'on devient Osiris. Eh bien, je vais y revenir, je vous laisse quand même des questions à poser. Mais toujours est-il qu'en 1861, il y a une loi, vous savez, tout le monde était compte de ceci, compte de cela, enfin, il y avait un abus de l'usage des noms, tel qu'il y a eu une loi qui est passée à ce moment-là, et on a demandé aux gens de justifier leur changement de nom. Parce qu'à l'époque, vraiment, les gens changeaient de nom comme ça pour s'ennoblir. Et Osiris fait un dossier qui est très, très intéressant, parce qu'on le retrouve justement aux archives nationales. Donc il nous donne des éléments biographiques, et il justifie ce changement de nom. En disant, mais depuis mon enfance, on m'appelle comme ça. Tout ce qui m'appartient est sous ce nom. Mon compte à la Banque de France, quand même, est sous le nom d'Osiris. Si vous m'enlevez mon nom... Je deviens un inconnu, et ainsi de suite. Alors, parce que tout ça passait aussi devant une commission et tout, et donc le référendaire explique que M. Osiris ne veut absolument pas s'ennoblir, que s'il avait d'ailleurs dû choisir un nom, il n'aurait pas pris celui-là, qui n'est pas très facile à porter. On veut bien le croire, hein, parce que vous doutez bien que combien de fois dans les pamphlets, dans les journaux d'époque, on s'est moqué d'Osiris, on lui a prêté des Isis, et ainsi de suite. Donc, il en aurait bien volontiers pris un autre, mais c'est celui qu'on lui a donné à sa naissance, et donc il y est fidèle, et il demande l'autorisation de le conserver, qui lui est accordée. Et désormais, il signera toujours Osiris, mais parfois I.D. Osiris. Le I ou le J, c'est bien sûr Ifla, qui disparaît un peu, et le D de Daniel. Alors, dans ce dossier, on apprend un certain nombre de choses sur sa biographie, et on apprend qu'il s'est marié en 1856. Et puis quand on regarde les dates, il y a un problème. En fait, il s'est marié parce que sa femme est morte en 1855. Oui, excusez-moi, je me suis trompé d'un an, mais, parce que les dates ont été falsifiées dans le dossier. Pour qu'on ne voit pas qu'en fait, sa femme est morte en couche 3 mois après le mariage. Cette jeune femme, donc, est morte en couche avec des enfants, des jumeaux, et est morte, donc, dans ses bras. Ça a été le grand drame de sa vie. Et il l'a vécu, véritablement, sur le mode romantique. On trouve ça dans les romans de l'époque, chez Musset ou chez d'autres, chez Alphonse Karr en particulier. Enfin bon, vous savez, le héros romantique qui perd sa bien-aimée et qui va, en quelque sorte, vouer sa vie au souvenir de cette bien-aimée. Il va jouer un peu ce personnage. La réalité est beaucoup plus, simple. Il sera grand amateur d'actrices, il sera connu pour un certain nombre de choses, mais dans l'hôtel particulier, la Chambre Bleue va rester jusqu'à sa mort en 1907, il y aura la Chambre Bleue. Il va aussi faire des rituels funèbres, et en particulier, sa femme était catholique. Donc, je donne cet élément parce que ça va expliquer aussi certaines difficultés qu'il va rencontrer avec la communauté juive de Bordeaux, qui ne voyait pas d'un très très bon œil que ce juif bordelais ait épousé une catholique et qu'il voulait enterrer à Bordeaux, donc au cimetière juif. Alors là, ça soulevait évidemment la colère un peu des notables juifs bordelais. On y reviendra peut-être. Donc, sa femme meurt en couche peu après le mariage, qui est donc un mariage de régularisation, et il instaure une sorte de rituel funèbre et décide en particulier qu'il veut construire. Il a déjà cette folie de la construction. Il veut construire une tombe extraordinaire, un caveau extraordinaire, dans laquelle, bien sûr, seront sa femme et ses deux enfants mort-nés, lui-même, mais aussi toute sa famille. Donc, en un mot, un grand caveau. À cette époque, la situation était un peu compliquée. Nous sommes dans les années 1850. On n'enterre pas les Juifs n'importe où dans les cimetières. Il y a des carrés juifs, mais qui sont des carrés stricts, avec des murs fermés. Nous sommes sous le Second Empire. C'est-à-dire que la loi religieuse ou la tradition religieuse est encore très très présente. Il faudra la Troisième République pour qu'elle abolisse justement les murs entre les sections juives et catholiques et protestantes des cimetières municipaux. Parce qu'à Bordeaux, les cimetières juifs ne sont pas des cimetières municipaux, ce sont des cimetières communautaires qui appartiennent à la communauté depuis le XVIIIe siècle. Donc des statuts totalement différents. Et donc, il a enterré de manière précaire sa femme, attendant d'avoir une parcelle qui soit à la jonction de la section juive et de la section catholique. Et ça a duré 30 ans. Pendant 30 ans, il a fait des négociations avec les services des cimetières, ainsi de suite. Mais son premier projet, ça avait été de faire cette tombe à Bordeaux. Il avait pensé qu'il pouvait acheter 10 emplacements dans le cimetière Cour de l'Isère pour installer ce grand monument dont il rêvait. Là, il s'est heurté donc à la tradition bordelaise, juive bordelaise, qui est que les tombes sont individuelles, sont des concessions de parcelles, et donc ils ont tout fait pour l'empêcher de construire ce monument. Je dirais que c'est un peu dommage, parce que quand on sait ce que c'est que la tombe d'Osiris, c'est une tombe absolument extraordinaire, sur laquelle il a fait placer la copie du Moïse de Michel-Ange, en bronze, grandeur nature, c'est-à-dire beaucoup plus grand que nature pour le Moïse, même c'était peut-être un géant, Moïse en marqué. Donc, c'est-à-dire une statue qui fait 2 mètres de haut, en bronze, réalisée par un prix de Rome, parce que, évidemment, Osiris ne fait pas faire ça par des tâcherons, mais il s'adresse toujours à des grands artistes officiels de l'époque. Et donc, c'est, comment il s'appelle, Mercier, Antonin Mercier, qui réalise pour lui, ça devait être en marbre, mais bon, il y a eu des problèmes avec le marbre, et donc il l'a fait faire en bronze, et donc il y a au cimetière de Montmartre une tombe. Ce n'est pas la seule tombe extraordinaire, parce que c'est que les cimetières sont des endroits où il y a de la sculpture ou des choses absolument étonnantes. Mais c'est quand même, je crois, une des plus intéressantes et une des plus extraordinaires du cimetière Montmartre, c'est cette tombe avec la copie du Michel-Ange, donc posée sur sa tombe. Ça aurait pu peut-être être à Bordeaux, et nous aurions eu au moins un endroit pour commémorer Osiris à Bordeaux. Parce que quelles sont les traces d'Osiris à Bordeaux? Je les ai cherchées. Oui, je vous en prie.
Le passage Leidé.
Voilà, bien sûr. Et vous savez pourquoi? Parce que le foyer Leidé est l'héritier, entre guillemets, du bateau-soupe. Alors, lorsque je parle à Bordeaux avec les Bordelais d'Osiris, c'est toujours ce dont ils se souviennent, le bateau-soupe. Cette institution absolument extraordinaire, qu'on a qualifiée avec raison, évidemment, l'ancêtre des Restos du Cœur, c'est-à-dire une péniche installée dans le port qui reçoit les travailleurs du port et surtout les femmes enceintes. N'oubliez pas le décès de sa femme, toutes ces fondations médicales, tous ces instituts de recherche et son legs final absolument faramineux à l'Institut Pasteur s'explique par ce fait. Et si la médecine avait pu sauver Léonie? Donc, il y a ce culte, si vous voulez, de la femme aimée, alors, vraiment dans toute une dimension romantique, qui se traduit justement dans cette démarche humanitaire. Et alors, quand le bateau soupe a été embarqué par les Allemands dans l'estuaire, puis coulé, et ainsi de suite, il y a eu des dommages de guerre avec lesquels on a utilisé, entre autres, pour le foyer Lédé. Et donc, dans le foyer Lédé, il y a une petite plaque. Mais je vous rappelle que sur cette plaque, il y a deux erreurs. Vous dire combien très rapidement la mémoire d'Osiris s'est perdue, c'est qu'il y a une erreur sur l'orthographe de son nom et une erreur sur sa date de naissance. Alors qu'il y a, trois lignes. Hein. Et bien, sur les trois lignes, il y a deux erreurs. L'autre élément qui, à Bordeaux, a fait parler à un moment un petit peu d'Osiris, ce sont les fontaines Wallace. Hein, puisque on revient au lieu de naissance, place des Augustins, actuelle place du Général Sarail, quand Osiris a décidé de jouer les mécènes, il va jouer les mécènes, vous avez compris, sur plusieurs plans. Sur le plan humanitaire, avec des fondations médicales, sur le plan patriotique, avec des grands monuments commémoratifs, et sur le plan juif, sa grande œuvre sur le plan juif, c'est de construire des synagogues. Il va quand même construire des synagogues à Lausanne, à Arcachon, mais ça c'était une petite synagogue privée, hein, mais à Lausanne, à Tours, à Vincennes, la rue Buffo, et à Tunis. Et à Tunis. C'est quand même assez incroyable, si vous voulez. Toujours pour défendre le judaïsme et le judaïsme français. Hein. Il rêve, si vous voulez, que le judaïsme tunisien soit modelé par le judaïsme français. Donc si on revient au bateau soupe, c'est dans son testament seulement qu'il a fait cette fondation en faveur de Bordeaux, parce que il était très très attaché à Bordeaux, mais il a eu tellement de déboires et de problèmes avec la communauté juive de Bordeaux, parce que ça n'a pas été le seul problème. Lorsque la synagogue de Bordeaux a brûlé en 1873, il a proposé de la reconstruire. Mais évidemment, ils n'ont pas voulu, parce qu'il est arrivé, vous voyez, voilà, vous me laissez faire, je reconstruis la synagogue. Ils lui ont dit non, on va tous participer. Enfin, c'est une œuvre communautaire de construire une synagogue. Donc, évidemment, il s'est retiré du projet. Hein. Et donc, il leur en a voulu de ne pas pouvoir. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a réalisé la synagogue de la rue Buffo, puisque l'incendie de la synagogue à Bordeaux, c'est 1873. La construction de la synagogue de la rue Buffo, c'est 1876. Donc, vous voyez qu'on est vraiment au même moment. Et il construit en même temps, dans la foulée, il a fait un accord avec l'entrepreneur. Vous me construisez aussi une petite synagogue privée à Arcachon, puisqu'il avait plusieurs villas à Arcachon, où il s'est installé avec les Pereire. Vous voyez bien les liens, Mirès, Pereire, et ainsi de suite. Donc, le bateau soupe, c'est une fondation qui avait été voulue par Osiris, qui est dans son testament, et dont la ville de Bordeaux n'était pas absolument ravie. Hein, les tractations autour du bateau soupe sont très, très intéressantes. Ils ont essayé, c'était très judicieux, et c'était pas mal pensé. Ils ont dit, mais puisque le légataire universel de M. Osiris, c'est l'Institut Pasteur, et si vous preniez l'argent donné pour le bateau soupe, 2 millions de francs de l'époque, hein, 2 millions de francs de l'époque, hein, ce n'était pas un rafio, il a fait construire un bateau spécialement. Hein. C'est vraiment une œuvre très, très étonnante. On a les plans aux archives municipales. Et donc, ils ont dit, mais et si, au lieu de nous mettre ce bateau qui nous pose un peu problème, parce qu'ils ne savaient pas trop où le mettre, ils disaient que jamais les ouvriers, les femmes enceintes n'iraient jusque là-bas pour prendre la soupe, bien. On sait en quoi ils se trompaient, hein, parce que les gens étaient prêts à faire des kilomètres pour aller manger. Hein. Donc, ils ont proposé qu'on leur construise un institut Pasteur à la place. Mais l'institut Pasteur, là, on peut rendre, je dirais presque hommage à l'intégrité de l'institut Pasteur, n'a refusé de construire un institut Pasteur à Bordeaux et a fait le bateau soupe, un peu contre la volonté de la municipalité. Il est vrai que, donc, vous voyez, les relations d'Osiris avec Bordeaux ont été un petit peu difficiles. Hein, il n'est pas toujours facile d'être né quelque part, de devenir quelqu'un ailleurs, si vous voulez, et de se faire reconnaître, en quelque sorte, dans son lieu natal. Hein, donc il y a eu, je crois, quelques petits tiraillements. Merci.